Bien, ben nous allons commencer donc ce deuxième cours. Donc, bonjour d'abord à vous tous. Donc, un deuxième cours qui va aborder un sujet qui est extrêmement vaste et qui va l'aborder en faisant des choix, alors, de la même manière que la semaine dernière. C'est vrai que la semaine dernière, le cours sur les pigments en une heure m'a permis d'aborder que quelques très rares cas. Ça va être un petit peu le même genre de problème aujourd'hui. Formuler la matière pour créer de nouveaux effets artistiques, on pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses. Tellement à chaque période de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des arts, on a eu des points de vue et des manières d'adapter finalement la pratique picturale, la formulation de la peinture, pas pour la couleur, mais pour avoir la bonne consistance, pour faire adhérer la matière sur le support. On a eu des variétés multiples. Donc la semaine dernière, j'avais choisi un petit peu de vous parler durant la première demi-heure d'un cas particulier autour de la préhistoire pour introduire une série de notions. Je vais faire la même chose aujourd'hui en fait et m'intéresser cette fois-ci à l'époque hellénistique pour aussi faire une sorte d'introduction sur ces variétés des techniques et ensuite regarder davantage le cas précis des peintures à l'huile. Donc c'est un petit peu dans ce but-là. Donc à chaque cours, je pense que je focaliserai un petit peu mes propos sur une période déterminée pour après prendre d'autres exemples qui ne sont que des choix personnels de choses qui sont étudiées actuellement, puisque c'est un des buts de ce cours, de vous montrer des recherches qui sont actuelles, ou alors des exemples qui sont particulièrement pertinents, à mon avis. Donc voilà, donc quel est le but de ce cours? Donc, quand j'en ai fait le petit résumé que vous avez aussi sur le site internet de chacun de ces cours, si vous voulez le voir avant de venir. Donc l'idée, c'est que l'interaction entre la lumière et une œuvre peinte est fortement conditionnée par la nature de la technique picturale employée. Vous connaissez des grandes techniques, la peinture à l'huile, la fresque par exemple, on y reviendra tout à l'heure, ça ne donne pas du tout les mêmes modes d'interaction entre la lumière et la matière. Ça ne donne pas du tout les mêmes types d'effets. Et donc ça a pu être recherché et certains artistes se sont spécialisés dans l'une ou l'autre des techniques, parfois par goût, parfois par nécessité, mais en tout cas ont dû adapter leur projet artistique à ces techniques. Et donc on va essayer d'explorer un petit peu, donc plus ou moins rapidement, l'évolution de la nature des liants, qui est le problème principal dans cette approche de la technique picturale, leur principe de séchage, quand on va pouvoir le regarder vite, et les conséquences sur l'aspect des œuvres que cela peut avoir. Donc, je vais vous parler des peintures hellénistiques de Cyrène, donc, enfin, à côté de Cyrène, donc d'un site archéologique en Libye, qui sont tout à fait exceptionnels et qui nous renseignent sur ces pratiques à l'époque hellénistique, donc il y a vers le 3e siècle avant notre ère. Puis on regardera un petit peu très 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 vite un grand panorama des techniques de l'art avec les différents liants organiques ou inorganiques qui ont pu exister. Et puis dans la deuxième partie du cours, je vais essayer de vous décrire un petit peu plus précisément comment il est possible d'aborder les propriétés physiques de la matière picturale, donc ce qui va finalement limiter le geste du peintre dans son application de la couleur à partir de méthodologies qu'on appelle donc de la rhéologie, donc de la façon d'étudier l'écoulement, la manière dont la matière va pouvoir se déposer de manière plus ou moins fluide sur le support. Et on regardera donc comment les huiles ont pu être formulées et comment on a pu aussi parfois ajouter ce qu'on appelle un médium de façon à modifier considérablement les propriétés rhéologiques, les propriétés physiques de la matière picturale. Donc la première partie va concerner donc ces métopes de Cyrène, parce que c'est un cas tout à fait particulier d'un mélange, d'une association de différentes techniques picturales. On a souvent le réflexe, et parce que les artistes d'aujourd'hui le font comme cela, de considérer qu'une œuvre est souvent réalisée avec une seule technique picturale. On va parler d'une peinture à l'huile, on va parler d'une peinture acrylique. Certains artistes vont pourtant chercher à mélanger les choses. Mais là, dans le cas de Cyrène, on va avoir un véritable mélange de plusieurs techniques. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce cas. Donc, si vous voulez, quel est le contexte archéologique des peintures qu'on va regarder? Ce sont des sépultures. Ce sont des sépultures relativement monumentales, comme vous avez ici, donc, qui ont été retrouvées dans une partie du Moyen Atlas, donc à Cyrène, dans l'actuelle Libye. Et vous voyez ces sépultures, enfin, ou l'entrée de ces sépultures avec les colonnes et avec toute une sorte d'architecture creusée dans la falaise ici, avec toute une série de possibilités là-haut, là dans ces petits carrés que vous voyez, avec les triglyphes entre chacune des petites zones, de mettre des peintures funéraires qui étaient souvent en relation avec le défunt et raconter une histoire qui pouvait être en relation avec la vie du défunt. Et donc ces sépultures ont été retrouvées, ont été repérés en 1825 par un explorateur qui était en même temps un dessinateur, et là vous avez un de ses dessins, donc il s'appelait Jean-Raymond Pachot, et qui a donc découvert ici, dans une de ses tombes, donc parmi toutes ces tombes, plusieurs d'entre elles, dont celle d'une jeune femme et qu'il a décrit comme étant une esclave noire. Donc c'est quelque chose qui était inhabituel, extrêmement surprenant à cette époque. Alors pourquoi il a décrit ça comme une esclave noire? Parce que ces peintures qu'il a relevées au moment de la découverte, donc présentes en haut de l'entrée de la tombe, représentent une série de scènes, comme vous voyez ici, où les figures féminines ont la peau noire. Donc ça a créé toute une série de discussions, de polémiques sur le statut social de ces femmes dans la civilisation grecque ou dans la civilisation hellénistique, et toute une série de discussions. Je n'ai pas beaucoup insisté, mais en fait, elles n'étaient pas noires. C'est juste qu'un produit d'altération de la matière organique s'est déposé à la surface de la peinture et a noirci les carnations. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu démontrer seulement il y a une dizaine d'années et qui aboutit d'ailleurs à la restauration de ces œuvres qui ont donc été envoyées au musée du Louvre, découpées en morceaux et envoyées en 1848 par Vatier de Bourville, donc qui est un agent consulaire français, et qui a découpé cet ensemble de petites peintures qu'on appelle des métopes pour les envoyer au musée du Louvre. Et vous pouvez les voir dans les salles du musée du Louvre et de peinture. Donc on appelle cette tombe la tombe dite de la balançoire ou de la jeune fille à la balançoire, parce que vous avez ici donc différentes scènes qui vous décrivent différents moments de cette vie de jeune fille, notamment d'éducation. Donc ici où elle est justement sur une balançoire, ou ici où elle va être emmenée, donc elle est morte là sur son lit de mort, elle va être emmenée par Caron pour lui faire franchir le Styx. Donc vous voyez un petit peu ces différentes scènes qui sont présentes. Et donc voilà ce que ça donne quand on va les regarder. Donc avant la restauration ici, telles que Pachot les avait observées, ou Vatier de Bouville les avait prélevées. Et donc vous voyez ces couleurs qui sont encore relativement bien préservées. Vous voyez très bien des tons orangés, des cheveux qui sont rouges, rouges, roux. Vous voyez quelques bijoux comme le bracelet ici qui est jaune. Et puis donc quelques autres couleurs. Et là, vous avez le relevé, en fait, replacé dans son contexte architectural avec ces triglyphes là qui sont présents et qui sont des sortes de petites colonnes entre chacune des scènes et donc qui ont été largement découpées. Hein. Et vous voyez le remontage en fait que l'on peut faire de cet ensemble complètement exceptionnel hein, de peintures de cette époque hellénistique. Donc l'ensemble de la documentation archéologique a été publié en 2004 par ma collègue Agnès Rouvray dans le catalogue des peintures grecques antiques du musée du Louvre. Donc pourquoi ça m'intéresse comme exemple? Parce que je vous l'ai dit, il y a plusieurs techniques artistiques qui ont été employées pour réaliser ces œuvres-là. Donc on a pu faire dans ce cas-là des études non-invasives, j'en parlerai pas spécialement aujourd'hui, puis également quelques petits prélèvements qui nous ont permis de regarder dans le détail la manière dont les couleurs étaient déposées à la surface de ces peintures. Et donc là, par exemple, vous voyez un détail ici d'une zone de cette femme. Vous voyez ici son épaule avec un trait rouge plus sombre. Vous voyez des tons rosés qui sont présents. Donc on a prélevé un échantillon au niveau de ces carnations. Cet échantillon est imprégné, inclus dans un bloc de résine. Puis on va le couper de façon à faire une section de l'échantillon, une section qui va nous permettre de révéler la stratigraphie des couleurs, donc de voir la superposition finalement des différents matériaux qui sont employés. Donc si on prélève dans une zone de carnation, voilà ce que l'on observe. Vous voyez l'échelle ici, 50 micromètres. Donc on observe une couleur rouge assez sombre présente ici, donc particulièrement dense à la surface et puis un peu moins dense en dessous, et au milieu de toute une série d'une matière blanche avec parfois des gros grains, comme vous avez ici. Donc face à ce type d'observation que l'on va faire avec un microscope optique, on peut également associer des analyses chimiques avec cette fois-ci un autre instrument qu'on appelle un microscope électronique à balayage et qui va nous permettre de faire la cartographie chimique des différents éléments présents. Et donc là, vous voyez l'image d'une zone de ce genre-là prise au microscope électronique, donc cette fois-ci avec les électrons, donc il ne voit plus la couleur, mais il voit la densité de la matière. Donc là, on a ces grains rouges, en fait, ça apparaît en blanc. Donc vous voyez la répartition du pigment. Et puis différents éléments chimiques que l'on va pouvoir regarder. Le carbone, ici, dans cette image. Donc en fait, c'est une échelle en fausse couleur. Quand vous avez une couleur rouge ou noire, ça veut dire que l'élément est très peu présent. Quand vous avez du jaune, ça veut dire qu'il est très présent. On appelle une échelle qu'on appelle souvent thermique, parce que ça ressemble à la manière dont un barreau de fer, par exemple, peut changer de couleur quand on le chauffe. Donc vous voyez, la résine qui est présente autour va donner beaucoup de signal. Le reste donne un peu de carbone. Ici, vous voyez le calcium à cet endroit-là. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de calcium dans tout l'échantillon de peinture. Partout, il y en a. Il y en a beaucoup dans la couche du dessous. Il y en a également dans la couche du dessus, en moins grande concentration, parce que le calcium à cet endroit-là est mélangé avec le pigment de couleur rouge que vous voyez être présent sous forme d'une couche très, très fine, en fait, qui fait quelques micromètres d'épaisseur et qui va diffuser un petit peu à l'intérieur de la matière jusqu'à une vingtaine ou une trentaine de micromètres de profondeur tout au plus. Donc là, on a une observation que l'on va pouvoir tenter d'interpréter par rapport aux connaissances de l'histoire des techniques picturales que l'on peut avoir et par rapport à ces observations. Il n'y a pas, dans ce cas-là, de matière organique qui sert de liant pour la peinture. En fait, le liant qui a été utilisé dans ce cas-là, c'est un carbonate de calcium, c'est de la calcite, qui s'est formée par une réaction chimique entre l'air et de la chaux. En fait, on est présent ici dans une technique de fresque où l'artiste a peint sur un enduit fait avec de la chaux. Donc, quel est le principe général de ce genre de technique de fresque? C'est de faire une superposition de différents types d'enduits. Donc souvent, on a un enduit relativement grossier qui contient donc des grains assez importants et qui sert à préparer le support, puis un enduit très très fin, donc avec des grains très très fins cette fois-ci, et qui va faire le fond de la peinture. Cet enduit est préparé avec de la chaux. Donc la chaux a cette formule chimique, c'est AOH deux fois, donc elle est obtenue en portant à très haute température du calcaire, puis après en le faisant réagir avec de l'eau. Et à ce moment-là, on forme ce constituant qui va pouvoir réagir avec le dioxyde de carbone, le gaz carbonique de l'air, pour créer une réaction chimique qui va former de la calcite. La calcite, c'est l'ingrédient principal du calcaire, donc il va former de la pierre. Donc dans ce type de technique, vous avez un enduit qui est frais, vous déposez le pigment, et naturellement, avec dans une durée qui est de l'ordre de quelques heures ou une ou deux journées, la chaux va se transformer en calcaire, et donc vous formez une peinture qui est totalement solide, qui est totalement minérale, qui est extrêmement dure et qui résiste très très bien au temps. C'est une technique qui a été très utilisée dans l'Antiquité, qui a été très utilisée, vous le savez aussi, à l'époque de la Renaissance, par exemple, et qui va permettre toute une série d'effets, mais qui aura un inconvénient très très important, c'est que vous devez peindre avec vos pigments quand l'enduit est encore frais, avant qu'il ne se transforme en calcaire, sinon la peinture ne va plus adhérer au support. Et donc l'artiste doit toujours travailler de manière relativement rapide avec ce type de technique. Et donc on le sait très bien en étudiant par exemple le plafond de la chapelle Sixtine, il a été possible de voir la manière dont Michel-Ange travaillait chaque jour en définissant une zone du plafond de la chapelle Sixtine sur laquelle il voulait peindre. Et cette zone était plus ou moins limitée en taille en fonction de la complexité de la peinture qu'il devait y mettre, puisqu'il savait que le lendemain, ça allait être trop tard. Et donc c'est pour ça qu'on considère souvent ce travail donc journalier qui pouvait être réalisé par les artistes avec cette technique de la fresque. Donc c'est une technique qui est extrêmement simple, hein, d'une certaine manière, extrêmement astucieuse par rapport notamment à la conservation, et qui a été employée dans l'Antiquité dans un grand nombre de cas, par exemple à Pompéi, par exemple dans d'autres œuvres romaines. Moi, je préférais rester dans l'époque hellénistique et vous montrer cette fresque qui est absolument extraordinaire et qui représente l'enlèvement de Perséphone par Hadès. Vous voyez sur son char ici, vous voyez bien les roues du char, le char, la divinité et puis Perséphone, et qui a été réalisé également avec cette technique de la fresque. Donc là, on est dans le cas d'une tombe retrouvée à Vergina, donc en Macédoine grecque, que vous pouvez voir ici. Je pourrais vous montrer beaucoup d'exemples, hein, mais je n'ai pas le temps. La deuxième technique que l'on voit sur les peintures de Cyrène est une autre approche, qui est une approche également purement minérale, où on va avoir aucun liant, et qui est cette fois-ci une peinture déposée en couche épaisse avec un liant de chaux. Enfin, aucun liant organique, mais un liant de chaux. Donc, vous voyez ici, le prélèvement a été fait, en fait, jusqu'à la surface de la pierre, et vous voyez qu'il y a deux zones, deux couches de couleur qui sont beaucoup plus épaisses. Vous vous souvenez tout à l'heure, l'échelle de la couche de couleur était de 10 microns environ. Ici, vous avez une échelle à 100 microns, donc vous voyez qu'on a des couches qui sont épaisses de l'ordre de 2 dixièmes de millimètre, relativement sombres, et puis une deuxième plus claire à la surface. Donc cet échantillon, on l'analyse au microscope électronique à balayage de nouveau. On voit qu'il contient beaucoup de plomb, qu'il contient beaucoup de calcaire, de nouveau beaucoup de calcium, et qu'il contient également des oxydes de fer, et notamment quelques grains de fer ici, d'oxyde de fer de couleur rouge sombre qui étaient mélangés. Donc là, on peut de nouveau interpréter les choses en disant que ça a été déposé, que la peinture a été réalisée en deux couches, donc une couche orange sombre et puis une couche orange clair ou jaune, comme vous pouvez le voir avec vos yeux sur la stratigraphie, donc une superposition. Le pigment était un pigment à base de plomb, mélangé à un pigment à base d'oxyde de fer. Donc on a des descriptions dans l'Antiquité de l'usage de ce type de pigment. Et le tout était mélangé avec de la chaux, de façon à appliquer ce mélange sur la surface de la pierre, laisser le temps faire, la chaux se transformer en calcaire, et de nouveau, vous avez une pierre qui se forme, mais qui a la couleur qui était voulue par l'artiste. Vous avez ici, donc, de nouveau, un autre style, une autre façon de réaliser la peinture, qui ne va pas permettre de travailler avec la même délicatesse que la technique de la fresque, puisque vous allez avoir une matière pâteuse que vous allez déposer en couches épaisses, et donc vous ne pourrez pas avoir les mêmes effets de transparence, par exemple, qui existaient. Mais par contre, vous préparez votre matière pâteuse, et vous pouvez la déposer, et vous avez la tranquillité de la déposer, puisque votre support n'est pas en train de réagir avec l'air en même temps. Donc ce sont deux techniques qui sont différentes. Alors celle-là, on l'a beaucoup observée, notamment dans tous les décors architecturaux de cette tombe, où cette technique a été très largement employée. Ça se comprend très bien, puisque dans ces décors architecturaux, l'artiste voulait avant tout déposer des couches épaisses qui allaient donner le cadre, finalement, de ces tableaux. Et donc on l'a retrouvé pour des couleurs bleues, on l'a retrouvé pour ces couleurs orange ou jaune. La troisième technique est certainement la plus intéressante dans ce cas-là, et c'est celle où je vais passer un petit peu plus de temps pour essayer de discuter des analyses chimiques que l'on peut faire autour de ces problèmes, et la technique dite de l'encaustique ou la technique utilisant de la cire d'abeille. Donc là, on va le voir en prélevant d'autres zones, donc plus les carnations cette fois-ci, plus le fond des tableaux ou le décor architectural, mais des zones comme vous voyez ici, le bracelet ou la boucle d'oreille, donc représentée en jaune vif pour symboliser l'or, ou les cheveux, comme vous voyez ici, de couleur un peu roux, et qui sont des zones très très particulières, donc on va pouvoir de nouveau prélever de la même manière, imprégner dans un bloc de résine, en faire une section, et regarder au microscope optique ou au microscope électronique. Donc là, vous voyez, au microscope optique, on a une couche qui fait environ 150 micromètres d'épaisseur, donc elle est partie avec un peu du calcaire de la pierre sous-jacente, donc vous voyez bien son homogénéité de couleur, donc elle est épaisse, relativement épaisse en tout cas, voire très épaisse. Et puis au microscope électronique à balayage, on a vu que cette couche contenait énormément de carbone, donc elle est essentiellement constituée de matière organique, bon, c'est de la cire d'abeille, qui a été identifiée par d'autres techniques, notamment d'infrarouge. Et puis à l'intérieur, on a observé quelques impuretés, mais vraiment en très très faible quantité ici, par exemple du plomb qui est présent à l'intérieur de cette cire d'abeille, et puis également un tout petit peu de calcium qui est présent dans cette cire d'abeille. Et puis à la surface, vous avez un peu de pollution. En fait, c'est les saletés noires dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure et qui contiennent notamment du calcaire, mais aussi du carbone et d'autres choses. Donc là, on est en présence finalement d'une matière organique, cette cire d'abeille, qui a été teintée avec quelque chose qu'on n'arrive pas à détecter de manière très simple par ces analyses. Les quantités de plomb ne suffisent pas pour dire que c'est un pigment à base de plomb, et j'y reviendrai également dans un instant. Alors, ces techniques de l'utilisation de la cire d'abeille, en fait, on les connaît dans l'Antiquité, pour l'époque gréco-romaine. On les connaît aussi avant parce que c'est vrai que c'est une pratique qui paraît évidente. Vous récupérez de la cire, vous la faites chauffer, vous la mélangez à un pigment, et puis vous avez une matière colorée qui finalement est relativement simple d'emploi. Il y a des usages qui sont antérieurs, et un des usages antérieurs documentés de manière très correcte et très intéressant est celui de l'utilisation de cette cire d'abeille pour la réalisation de la peinture du fameux portrait sculpté de Nefertiti, donc qui est conservé dans les musées de Berlin, et où des analyses ont été effectuées, donc publiées en 1982, ce n'est pas très récent. J'espère qu'un jour il y aura des publications plus récentes sur ce portrait, et où les chimistes allemands qui avaient fait cette étude ont regardé par différents types de méthodes en fait, comment caractériser les différents liants qui ont pu être utilisés pour la réalisation de ces couleurs. Donc des liants, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, notamment de la gomme arabique, qui est un autre liant utilisé par exemple pour les carnations. Mais ici, ils ont cherché sur un petit prélèvement qu'ils avaient fait sur les cils de Nefertiti, enfin de la statue de Nefertiti, ils ont cherché à mesurer le point de fusion. Donc à quelle température la peinture allait fondre. C'est le graphique que vous avez ici, vous avez les températures ici à 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés. Et donc après, la nature de la réaction chimique, donc là qui est endothermique, donc, et on regarde un petit peu la manière dont elle se produit, et ça va nous permettre de mesurer la température précise de fusion de cette cire, température précise de fusion qui est de 64 degrés. Et si vous prenez de la cire d'abeille d'aujourd'hui et que vous cherchez à la faire fondre, c'est la même température de fusion. C'est quelque chose qui est totalement dépendant de la composition chimique de cette cire d'abeille. Donc c'était aussi intéressant de voir. Donc il ne faut pas chauffer énormément pour réussir à faire fondre la cire et de là réussir à l'utiliser et à l'appliquer. Et le peintre égyptien à cette époque-là, donc vers 1320 avant notre ère, a donc su utiliser cette cire pour faire ce décor noir, sombre, à la fois des sourcils et puis des cils et du maquillage autour des yeux, et uniquement là, d'après les analyses qui ont été faites jusqu'à présent. Donc c'est un autre cas intéressant, mais qui nous pousse à regarder d'un petit peu plus près, finalement, ce qu'est cette technique de cire d'abeille, cette technique de l'encaustique. Donc de manière très très simple et très décrite dans beaucoup de textes, donc la première idée, c'est qu'il faut chauffer la cire de façon à la faire fondre, pour pouvoir l'appliquer sur le support. Donc on va l'appliquer. Et puis après, les Romains ont beaucoup commenté les possibilités que l'on avait après de traiter une fois la peinture déposée, de retraiter la peinture sur la paroi en elle-même, avec des outils, donc un cautère ou un cautérium en latin, qui permettait de finalement lisser la surface, voire de la retravailler légèrement et de donner notamment des effets brillants qui étaient particulièrement séduisants pour l'œil des Romains. Mais on a également des textes, et donc c'est l'autre avantage que l'on a pour ces périodes historiques notamment de l'Antiquité, des textes très intéressants, notamment l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien, qui est vraiment la référence pour comprendre les pratiques artistiques de ces époques-là, et qui va nous décrire l'usage non pas d'une cire d'abeille brute, mais l'usage d'une forme de cire d'abeille qu'on appelle de la cire punique, et qu'il va décrire donc, dans un de ses livres de l'histoire naturelle, donc là le livre 21. Donc si je vous lis la recette, la cire punique se prépare de cette façon. On expose souvent à l'air de la cire jaune, puis on la fait bouillir dans de l'eau de mer prise au large et à laquelle on ajoute du natron. Puis, avec des cuillères, on enlève la fleur de la cire, c'est-à-dire la partie la plus blanche, et on la verse dans un pot contenant un peu d'eau froide. On fait de nouveau bouillir à part cette portion dans de l'eau de mer, puis on refroidit le vase. Après avoir renouvelé cette opération trois fois, on fait sécher la cire sur une clé de jonc en plein air, à la lumière du soleil et à celle de la lune. Donc après, il y a tous ces petits constats un peu plus compliqués. La lune blanchit, le soleil la sèche. Bon, le soleil est chaud, hein, bien entendu. Et pour qu'il ne la liquéfie pas, le soleil grec peut atteindre 60 degrés sans aucun problème l'été, notamment, on la protège avec une toile fine. Voilà. Donc il nous donne une recette finalement extrêmement précise de transformation d'une cire par un procédé extrêmement bien décrit, où on va récupérer la crème de la cire, la crème qui va surnager à la suite de cette réaction entre l'eau de mer, le natron et la cire naturelle. Je finis juste sur la couleur. On rend noir la cire en y incorporant de la cendre de papyrus. Rouge en y incorporant de l'orcanette, donc un colorant végétal. Certainement, peut-être, on n'a pas pu le démontrer jusqu'à présent, celui qui était présent dans ces peintures rouges des cheveux de ces métopes de sirènes. Et enfin, on lui donne toutes sortes de couleurs avec différentes drogues. Donc en fait, il n'y a pas que de l'orcanette, il y a toute une série de substances colorantes qui pouvaient être extraites de toute une série de plantes à ces époques-là et qui pouvaient être mélangées pour donner ce type de produit. Donc on a ce type de recette, c'est très intéressant, mais qu'est-ce que ça signifie? Et c'est là où on peut essayer de mettre en parallèle des analyses chimiques avec la compréhension de ces recettes antiques. Et donc des études ont été faites, alors notamment par Nicolas Garnier en 2002 et puis par d'autres collègues Stassé en 2011, pour essayer de comprendre un petit peu plus la nature de la composition de ces cires d'abeilles et de leur évolution au cours du temps ou au cours d'un traitement chimique comme la cire punique. Donc qu'est-ce que c'est qu'une cire d'abeille moderne? Si on cherche à l'analyser chimiquement, on va voir qu'elle contient différents types de composés, qu'elle va contenir des esters d'acide et d'alcool gras, c'est le matériau cireux, elle va contenir des hydrocarbures, et puis elle va contenir aussi des acides gras. Bon, ces trois types de molécules, que je ne vais pas vous décrire en grand détail, sinon il fallait que j'y passe beaucoup de temps dans ce cours, donc j'ai préféré ne pas le faire, et qu'on peut regarder alors de manière plus précise ici, hein, où vous avez toute une liste en fait, des différentes familles de composés ou de composés précis qui peuvent être identifiés à l'intérieur d'une cire d'abeille telle qu'elle a été analysée par des méthodes de spectrométrie de masse il y a quelques années. Mais en même temps, l'idée était de regarder cette recette de Pline l'Ancien de cire punique. Donc c'est ce qu'a fait Stassé là, dans cet article. Et donc il a analysé par une méthode, donc chromatographie et de spectrométrie de masse, analysé la cire d'abeille qu'il a utilisée au début, puis la cire d'abeille qu'il a utilisée après une reconstitution de cette méthode de cire punique. Alors pour vous dire par exemple comment il a fait, pour reconstituer cette cire punique, il a pris de la cire d'abeille non traitée, et puis il a fabriqué de l'eau de mer artificielle, histoire de pouvoir avoir une procédure reproductible, parce que l'eau de mer prise au large, en fait, on sait ce que c'est, hein, ça contient une certaine quantité de sel, ça contient une certaine quantité de carbonate. Donc, par exemple, il mettait dans 400 ml d'eau 14 g de sel de mer, ce qui donne 3,5% de chlorure de sodium, chimiquement, et puis environ 10 g de bicarbonate de soude. Donc ça lui donne finalement le milieu qui va servir à faire cette réaction. Et puis après, comme Pline l'indiquait, il va traiter et récupérer la matière cireuse blanche qui apparaît à la surface quand on fait bouillir ce mélange. Donc qu'est-ce qu'on a aussi ici? Donc ici on a un chromatogramme, donc ici c'est le temps que mettent les molécules pour réussir à être détectées en passant un très long chemin à l'intérieur d'une ce qu'on appelle une colonne chromatographique. Donc plus les molécules mettent de temps, plus elles sont, enfin des molécules différentes vont mettre des temps différents pour arriver dans le détecteur. Donc là vous voyez la durée de l'analyse, elle est de 40 minutes dans la procédure qu'ils ont utilisée. Et vous voyez apparaître toute une série de pics. Et tous ces pics correspondent à une molécule chimique particulière qui peut être identifiée de manière très précise par la méthode de spectrométrie de masse qui est associée à cette chromatographie. Et donc là, on va avoir des lettres. Alors A, par exemple, les A, ça va correspondre aux hydrocarbures. Donc il y en a toute une série qui apparaissent. Les W, c'est ces esters qui sont dans cette partie-là, qui apparaissent. Et puis les F, qui sont au milieu des A, là-dedans, sont les acides gras. Donc quand on analyse la cire d'abeille non traitée, vous avez ce chromatogramme ici. Et puis quand vous allez faire le traitement reconstitué tel qu'il est décrit, vous allez avoir celui-là. Et donc juste en regardant les peignes finalement que vous voyez dans ces deux cas, vous voyez que certaines molécules ont disparu, aucune n'est apparue, on n'a pas eu d'apparition de nouveaux types de molécules. Il y a eu un peu de dégradation quand même de certaines molécules, mais qui ont donné de toutes petites molécules qu'on n'a pas dans ce diagramme-là. Mais vous en voyez certaines qui ont disparu, et notamment les acides gras. Donc c'est tous les F là, que vous voyez ici, ils n'existent plus là. Vous voyez, vous avez les hydrocarbures et vous avez les esters cireux. Et c'est tout. Donc en fait, la procédure de la cire punique consiste à retirer une fraction non négligeable en pourcentage de la matière d'origine pour en faire un autre produit qui va pouvoir donc réagir différemment puisqu'il ne contient plus cet ingrédient à l'intérieur. Donc après, la compréhension chimique précise de pourquoi il est nécessaire de faire ce type de transformation, pour l'instant, n'a pas encore été complètement explorée et complètement exploitée et mériterait certainement d'autres recherches. Mais on peut regarder ça un petit peu encore différemment en s'intéressant cette fois-ci à un autre contexte qui n'est pas la peinture, mais qui est la réalisation de produits à usage médical, notamment qui ont été retrouvés à l'intérieur de ce tube en bronze que vous voyez ici, qui est un tube à quatre compartiments. Vous voyez là, le premier compartiment est ouvert, vous pouvez l'ouvrir ici, donc c'est fermé là, et puis retrouver de la matière là-dedans, et puis encore ici. Et donc dans ces compartiments-là, vous voyez ici une photographie, on a une matière qui est extrêmement bien préservée, qui a été analysée donc par des collègues anglais. Ces objets-là sont conservés au British Museum, et cet objet-là, en tout cas, est conservé au British Museum et date de l'époque romaine. Donc à côté, vous avez la radiographie, hein, vous voyez les différentes parties creuses qui servent à contenir le médicament et la manière dont étaient emboîtés finalement ces différents petits tubes de bronze de façon à faire une petite trousse médicale extrêmement pratique, petit coffret à comprimer si on veut, sauf que là, c'est une matière pâteuse qui était présente à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que ça donne quand on va regarder ce genre de choses? Ben là, je vous ai mis juste deux des chromatogrammes, donc la même famille de graphiques que celui que je vous ai montré sur la cire d'abeille naturelle moderne et sur la cire punique reconstituée, provenant de deux compartiments, donc le compartiment 1 et le compartiment 3. Donc dans le compartiment 1, on va retrouver tous les pics avec les F, avec les A, avec les W, donc décrivant les hydrocarbures, les acides gras, les esters cireux, que je vous ai déjà décrit tout à l'heure, plus d'autres pics, alors vous voyez ici des D, en fait, qui correspondent à toute une série d'autres types de molécules qui sont caractéristiques de l'ajout dans cette cire d'une résine de conifère. Donc c'est ce qu'on appelle l'acide abiétique et des dérivés de l'acide abiétique qui sont des traceurs de cette résine de conifère. Donc on peut dire que dans le compartiment 1, on a un mélange, une résine de conifère avec de la cire. Et puis vous voyez aussi apparaître ici des grands pics avec un F là, d'acide gras et qui correspondent en fait à l'ajout d'une matière grasse. Donc on est en présence d'une véritable formulation qui aurait très bien pu être une recette de liant de peinture. Mais le contexte archéologique de ce type d'objet nous ramène plutôt à la pharmacie, qui est un mélange de matière grasse, d'une huile végétale ou d'une graisse animale, on ne sait pas, avec une résine de conifère et puis avec de la cire d'abeille. Mais les collègues qui ont fait cette étude ont été très surpris parce que dans les autres compartiments, ils ont retrouvé la même chose, sauf dans le compartiment 3. Vous voyez que le chromatogramme ici est plus simple. On a les esters cireux, on a les hydrocarbures, on a la même matière grasse, mais par contre, on a fait disparaître toute une série d'acides gras exactement les mêmes que ceux qui disparaissent dans la technique de préparation de la cire punique. Et en fait, ils ont comme ça montré, vous voyez, c'est en 2011, hein, ces résultats, c'est assez récent, ils ont comme ça montré qu'il y avait dans un des produits médicaux présents dans cette petite trousse, une cire punique mélangée à des ingrédients, et dans d'autres, une cire d'abeille naturelle non traitée, mélangée d'ailleurs aux mêmes ingrédients. Ce qui montre encore des réflexions qui devaient être faites à ces époques-là pour réussir à finalement traiter de manière particulière ces cires en fonction de différents usages. Le même type d'étude aussi précise n'a pas encore été réalisé sur des échantillons, en tout cas à ma connaissance, sur des échantillons hellénistiques tels que ceux de Cyrène, pour voir réellement si cette cire punique était présente. C'est dommage, il faudrait le faire maintenant, et j'espère que ça sera fait d'ailleurs dans un futur proche, pour regarder si l'artiste de Cyrène avait utilisé la cire punique ou bien la cire d'abeille naturelle non traitée, et commencer à rentrer finalement dans cette histoire de cette sophistication des traitements de ce type de composés. Donc voilà, donc si on regarde un petit peu, donc après un peu de nettoyage, hein, je vous ai montré un petit détail ici de cette femme présente avec cette couleur chair particulière, ces tons roses, les bijoux en jaune, les cheveux ici plus orangés. Ici, vous voyez également Caron en train d'emmener la défunte et vous voyez très bien son bras avec des carnations. En fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce mélange de liant calcaire, ce mélange de pigments avec un liant calcaire a permis de créer des teintes homogènes, a permis d'ajouter des couleurs par superposition de couches. Pour la fresque, on a eu ces échanges, ces mélanges de couleurs, c'est-à-dire qu'un tout petit peu de peinture rouge était appliqué dans certaines zones du bras de façon à créer des tons qui ne sont pas sans rappeler les fresques que l'on peut avoir en Italie chez des grands artistes comme par exemple les fresques de Giotto. On est vraiment dans un travail extrêmement subtil de la carnation, extrêmement riche du grand art par rapport à la réalisation de ces œuvres. Et puis l'encaustique qui a été utilisé avant tout pour faire des bijoux en or, pour faire des cheveux, pour faire quelques vêtements. et donc une matière qui pouvait avoir encore d'autres types de propriétés, cette fois extrêmement lumineuses, et donc qui, avec la douceur de la fresque, devait créer des contrastes qui étaient particulièrement séduisants et qui démontrent la sophistication artistique de ces peintres. Pour votre information, je vous conseille, si vous voulez lire plus de choses, voir davantage de documentation, notamment historique, sur ces méthodes de sirène, d'autres cas d'études et surtout les textes anciens, de regarder ce site qui a été fait par un groupe d'étudiants il y a une dizaine d'années à l'École normale supérieure de Lyon, d'étudiants en littérature, et qui regroupe en fait un grand nombre de textes décrivant les peintures antiques, décrivant les techniques antiques, et qui est extrêmement pratique quand on va rechercher une documentation particulière. Donc, par exemple, sur ce site, d'ailleurs, vous pouvez retrouver ce petit texte de Pline l'Ancien qui va nous décrire en fait, déjà en fait, cette préoccupation qui existait sur ces techniques mélangées pour réaliser des œuvres d'art. Et donc, Pline l'Ancien va nous dire, alors, dans un autre livre de son histoire naturelle, sur l'ensemble des couleurs, celles qui aiment un enduit à la craie et qui refusent de prendre sur un enduit humide sont le purpurissum, l'indigo, le bleu d'azur, le bleu de mélosse, l'orpiment, le verapien, la céruse. Donc, il nous fait un commentaire technique ici en disant qu'il y a des couleurs qui sont adaptées pour une technique picturale et pas forcément pour une autre. En effet, certaines couleurs ne sont pas compatibles avec les techniques d'utilisation de la fresque. Et donc on va pouvoir à ce moment-là préférer d'autres types de techniques pour ces couleurs-là. Et donc avec ces mêmes couleurs, les cires peuvent se teindre pour la peinture encaustique par un procédé qu'on ne peut appliquer sur les parois mais qui est très commun aux vaisseaux de guerre et même à présent aux bâtiments de transport. En fait, cette technique de l'encaustique est très connue d'abord pour la décoration du bois et pour la manière de protéger également, par exemple, des vaisseaux de guerre par des matières picturales colorées. Le cas de sirène ne me permet pas de regarder pour cette époque hellénistique un autre lien qui était extrêmement important. Donc, je vous ai rajouté juste cette petite illustration juste pour l'illustrer. Je vous en ai parlé déjà dans le cas du portrait de Néfertiti. C'est les liens à base de gomme arabique, donc de gomme extraite d'un acacia, et qui vont permettre de coller finalement les pigments directement sur le support. Et donc là, vous avez la tombe d'Eurydice, où vous avez un magnifique trône. Donc vous avez ici deux détails, et notamment ce détail avec une lumière un peu rasante. Vous pouvez voir le modelé des couleurs et la manière de déposer la matière picturale pour réaliser ces deux chevaux qui sont incroyablement réalistes et incroyablement beaux. Et là, la technique de la gomme arabique, du lien à la gomme arabique, est extrêmement propice pour ce genre de choses. Il y a encore un autre cas, mais là que je n'ai même pas illustré pour ne pas vous montrer trop d'œuvres trop variées dans trop de contextes. C'est encore une autre technique qui consiste à utiliser de l'œuf comme liant, donc la technique dite atempera, et qu'on a pu observer en Grèce, exactement encore à la même époque que Cyrène ou que la tombe d'Eurydice ou la tombe de Perséphone, par exemple à Démétrias Pagazès, donc la ville actuelle de Volos, on a pu observer cette tempéra à l'œuf. Donc vous voyez, on a finalement à cette époque-là, donc au IIIe siècle, grosso modo avant notre ère, déjà un grand nombre de techniques picturales qui coexistent et qui sont maîtrisés par les artistes, qui vont pouvoir choisir celles qu'ils veulent en fonction du but artistique qu'ils vont rechercher. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant avant qu'on arrive à un dogme d'utilisation d'une peinture à l'huile qui va être essentiellement la technique principale pour les peintures de chevalet. Mais bon, tout ça est beaucoup plus compliqué encore si on regarde un petit peu plus près. Là, je vous ai fait une liste en partant du catalogue d'un marchand de couleurs. Donc, ce n'était pas Dominique Sennelier, c'est un autre marchand de couleurs, où je vous fais une liste de la manière dont il a classé finalement toutes les techniques picturales qu'il vend dans son catalogue. Donc l'aquarelle, les encres de Chine, la gouache, la peinture acrylique, la peinture à la colle et la détrempe, la peinture à l'huile, le pastel, les crayons de couleur, les crayons aquarellables, la tempéra, l'encaustique. Bon, vous retrouvez ce que je vous ai déjà dit dans le même type de catalogue. Et chimiquement, finalement, ça va correspondre à l'usage de toute une série de substances, donc des huiles qui sont souvent de lin, de noix ou d'œillette, des résines, ça peut être de la colophane, sandarac, ambre, mastic, je pourrais rallonger la liste considérablement encore ici, la cire d'abeille, des gommes, gomme arabique, des cols animales, cols de peau, par exemple, de l'œuf, jaune d'œuf, blanc d'œuf, les deux mélangés, là aussi on a différentes choses, la chaux qui va servir à la fresque, et puis au XXe siècle, des polymères, donc les deux plus connus sont les vinyliques et les acryliques, qui vont être extrêmement employés à partir des années 1940-1950 dans l'art contemporain, l'art moderne du XXe siècle et contemporain. Donc voilà un petit peu une gamme, donc je n'ai pas cherché à vous décrire dans le détail tout ça, il me faudrait un grand nombre d'heures de cours. Donc je voudrais maintenant m'intéresser à un cas particulier, qui est celui de la peinture à l'huile, et dans un but particulier, qui est de réfléchir à son intérêt, et pourquoi la peinture à l'huile possède des propriétés qui sont pertinentes pour la création artistique et quelles sont derrière, finalement, ces propriétés que l'artiste va rechercher, les concepts de la physique et de la chimie qui nous informent sur l'intérêt de certaines recettes anciennes. Donc là, vous avez une gravure de la fin du XVIe siècle qui vous montre un atelier de l'artiste, d'un artiste, donc avec tous les apprentis autour de lui. Lui, il est en train de peindre au centre. Et vous voyez ici deux ouvriers ou deux jeunes artistes qui sont en train de préparer la peinture, qui est une peinture à l'huile. Donc ici, ils sont en train de moudre. Donc vous aviez vu ça avec Dominique Sennelier la semaine dernière. Sur le support, ils sont en train de moudre le pigment. Et lui a un geste très, très clair où on le voit verser l'huile de façon à continuer à mélanger et donc à fabriquer une couche homogène, une matière homogène de peinture à l'huile, donc associant une huile avec un pigment. Donc cette technique de la peinture à l'huile est une technique qu'on dit toujours remonter au XVe siècle, aux frères Van Eyck dans les Flandres, qui l'auraient inventé. C'est certainement vrai, ils ont certainement adopté en tout cas des trucs, des tours de main pour préparer l'huile de la meilleure manière pour qu'elle soit réellement utilisable. En fait, on sait qu'auparavant, l'huile était déjà utilisée dans certains types de cas. Et par exemple, au XIIe siècle, on a des textes, notamment le traité du moine Théophile, qui mentionne l'utilisation possible de l'huile, des huiles, mais en précisant que ces huiles sèchent mal et que pour accélérer leur séchage, les œuvres doivent être placées au soleil et les huiles doivent être bouillies longtemps, ce qui les rendait épaisses, visqueuses et difficiles d'application. Donc il expliquait que ce n'était pas si simple de travailler avec ce liant, qui pourtant pouvait être très intéressant. Et on a d'autres commentaires, alors un petit peu postérieurs, par exemple au XVIe siècle, mais qui sont des commentaires beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus artistiques, notamment Giorgio Vasari, qui va dire que ce procédé exalte les couleurs, il ne demande que soin et amour, car l'huile possède en elle-même la propriété de rendre la couleur plus moelleuse, plus douce, plus délicate, plus facile à accorder et à estomper. Vous voyez, derrière tout ce vocabulaire-là, en fait, on a toute une série de concepts, à la fois de perception, d'interaction entre la lumière et la matière picturale, et puis de techniques dans la gestuelle du peintre pour réussir donc, à déposer de manière délicate les couleurs, à les accorder et à les estomper. Donc si on regarde ce dossier, on peut le regarder déjà de différentes manières. La première manière va être de regarder un petit peu certains commentaires sur ce qu'il peut se produire quand on met une huile sur une toile avec un pigment, bien entendu. Et donc là, je vous mets deux commentaires qui ont été faits au XIXe siècle par deux spécialistes des techniques picturales, donc Templeton et Martel, et qui ont fait des expériences pour regarder, donc le premier, les temps de séchage des huiles déposées sur une lame de verre par un temps sec et chaud, déjà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc une huile de lin sur une lame de verre déposée en fine couche va sécher, en tout cas ils considèrent que c'est sec, en un jour. Si c'est une huile de noisette, il dit que c'est un peu plus que l'huile de lin. Donc ce n'est pas très clair, mais il a bien vu que ça sèche un petit peu moins vite. Pour l'huile de yette ou l'huile de pavot, c'est quelques jours, donc ça sèche un petit peu moins bien. Donc en fonction de la nature de l'huile, c'est-à-dire en fonction de sa composition chimique, donc une huile est constituée de triglycérides qui contiennent des acides gras. Vous connaissez ce vocabulaire des acides gras beaucoup, on en parle, même si on n'est pas chimiste, on en parle souvent. Je vais y revenir dans un instant. On va avoir des propriétés différentes. Et puis un autre Martel va faire autre chose, il va prendre une huile spécifique qui est l'huile de lin et la déposer en film très fin sur différents types de substrats. Donc des substrats métalliques, cuivre, bronze, zinc, fer, et il dit que ça va sécher en deux jours. Donc il n'a pas utilisé le même protocole, hein, puisque lui disait sur du verre en un jour. Bon, enfin tout ça c'est un peu compliqué, c'est approximatif, mais c'est juste pour vous montrer les idées. Le plomb, ça sèche beaucoup plus vite, en 6 heures, beaucoup, beaucoup plus vite. Sur du bois de peuplier, en 23 jours. Sur du bois de chêne, je ne sais absolument pas expliquer la différence de séchage, 34 jours. Donc c'est des constats, que, finalement, le support va avoir beaucoup d'importance. Et dans ce concept de peinture à l'huile, finalement, c'est ce qui va rejaillir dans tous les modes de préparation qui seront proposés. Faire bouillir de l'huile très longuement, comme le proposait le moine Théophile, va être une façon d'initier certaines réactions chimiques qui vont permettre de préparer l'huile à sécher à une vitesse qui est acceptable par l'artiste. Et donc, on a comme ça des recettes de peinture à l'huile qui vont apparaître et qui vont nous décrire notamment le mélange ou la cuisson plutôt d'huile végétale avec de l'oxyde de plomb. Et en faisant cuire les deux, donc ça apparaît au XVe siècle de manière très très nette, sans doute avec les Van Eyck, en faisant cuire les deux, on a des réactions chimiques qui se produisent. Alors quel est le schéma d'une huile? Vous l'avez ici. Donc, les grandes chaînes ici, c'est ce qu'on appelle les acides gras, et qui vont se fixer à un glycérol, donc par 3, c'est ce qu'on appelle donc les triglycérides ici. Et quand on va faire réagir ces triglycérides avec des oxydes de plomb, on va avoir une réaction chimique qu'on appelle une saponification, donc qui va couper en fait, ici, séparer le glycérol, libérer les acides gras, qui vont réagir avec le plomb pour former ce qu'on appelle des savons de plomb. Et cela va améliorer, sans qu'on l'explique encore peut-être totalement chimiquement, mais on l'explique par l'expérience, sans aucun doute, va améliorer la siccativité de l'huile, c'est-à-dire va faire qu'elle va sécher mieux, plus vite et plus correctement. Parce qu'il ne faut pas juste qu'elle sèche, il faut qu'elle sèche sans trop se craqueler et sans trop décoller la couche au moment de son séchage. Donc après, le type de ce type de réaction va être intéressant, ça va permettre une grande liberté de travail aux artistes et ça va améliorer le rendu des œuvres, comme je vous l'ai dit par le texte de Giorgio Vasari. Alors huile de yette, huile de noix, huile de lin, trois types d'huiles fréquemment utilisées en peinture, donc on peut les analyser de la même manière. Et là, vous avez une série d'acides gras présents dans ces huiles et leur pourcentage, donc l'acide palmitique, l'acide stéarique, l'acide oléique, l'acide linolénique, qui correspondent à différentes huiles, à différents types d'acides gras, et notamment plus ou moins insaturés, donc monoinsaturés, polyinsaturés, on en parle aussi beaucoup par rapport à la santé. Et vous voyez en fait que ces différentes huiles n'ont pas exactement les mêmes types de compositions. L'huile de lin, par exemple, a énormément de cet acide gras linolénique, donc C18-3, à trois insaturations. Ce n'est pas le cas de d'autres. L'huile de noix va avoir beaucoup de celui-là, comme l'huile de yette. Donc en fait, ils n'ont pas les mêmes compositions chimiques. C'est pour cela qu'ils ne vont pas non plus sécher de la même manière. Il y a toute une série de mécanismes dans ce séchage qui vont pouvoir être abordés et qui ont été étudiés par différents auteurs. Alors notamment, il y a un livre très intéressant qui a été réédité en 1986 de Jacques Maroger, à la recherche des secrets des grands maîtres, qui est un travail des années 1940-1950, et où il cherche à décortiquer justement les recettes traditionnelles de la peinture pour les expliquer chimiquement. Donc ce travail a été poursuivi récemment, notamment par Laurence de Viguerie, dans mon laboratoire, et puis lors de sa thèse, et de regarder un petit peu ce qui pouvait se produire, alors de reconstituer ces recettes pour voir comment finalement un oxyde de plomb et une huile, alors si je reste sur cette diapositive, là je vous mets une recette qui a été décrite par un chimiste anglais marchand de couleurs, George Field, en 1835, dans un ouvrage très important qu'il appelait Chromatographia, et lui il dit qu'il faut prendre 8 parts d'huile pour une part d'oxyde de plomb. Bon, il y a d'autres recettes qui vont donner d'autres types de mélanges. Et donc on peut regarder ce qui se passe quand on va juste cuire à une température de 150 degrés pendant 2 heures le mélange d'une huile avec l'oxyde de plomb et se rendre compte qu'on va avoir, alors là vous avez une série d'échantillons qui sont prélevés au cours de la réaction, au cours des 2 heures de la réaction, et vous voyez que l'huile au début est claire et qu'à la fin elle devient très sombre, et en fonction de la quantité de plomb également, ça dépend un petit peu des circonstances, elle arrive à être totalement noire. Et c'est ce qu'on appelait l'huile noire, donc qui pouvait être utilisée comme liant, mais qui avait une certaine couleur qui pouvait ne pas être totalement pratique. Donc c'est certainement le procédé qui a été employé par Van Eyck, qui a été importé en Italie par Antonello de Messine. Et là, on a toute une série de commentaires historiques aussi très intéressants là-dessus, qui nous montrent les échanges qui pouvaient exister entre les Flandres et l'Italie à ces époques-là, dans ces transferts finalement de techniques picturales, les peintres italiens préférant beaucoup la tempéra et la fresque avant que l'huile ne soit introduite. Et puis après, vous avez une autre approche, alors que certains, dont Jacques Maroger, considèrent dater de l'époque de Léonard de Vinci, du tout début du XVIe siècle, voire avoir été inventé par Léonard de Vinci, et qui est une astuce par rapport à la recette précédente. Vous allez faire une cuisson pendant 2 heures, mais à votre mélange d'huile et d'eau, vous allez rajouter, d'huile et de plomb, vous allez rajouter de l'eau. Et donc en rajoutant de l'eau, l'eau va se mettre à bouillir, donc va vous limiter la température à 100 degrés, mais va aussi rentrer dans certaines réactions chimiques qui feront que l'huile ne va plus noircir. Et donc vous allez réussir comme ça à fabriquer une huile préparée qui va rester de couleur normale, enfin plus translucide. Et là vous voyez à 20% de plomb par exemple, vous la voyez s'écouler, donc elle est relativement fluide, pas trop visqueuse, pas trop pâteuse, et ça va donner un liant tout à fait correct. Donc les réactions vont dépendre de la durée de cuisson, la température est limitée par l'eau, de la teneur en oxyde de plomb. Et là par exemple, si vous avez 10% d'oxyde de plomb en masse, vous allez faire de la saponification, donc la rupture des acides gras et du glycérol, à 25%, et puis à 20% d'oxyde de plomb, à 55%. Et ça vous donnera en fait des huiles qui auront des propriétés physico-chimiques différentes, mais qui pourront être d'intérêt pour les artistes. Donc vous voyez un petit peu la façon dont on peut reconstituer déjà ça, et de se rendre compte qu'un ingrédient qui aurait pu paraître complètement accessoire, l'eau, est finalement très important dans ces remarques. Donc ça, c'est la façon d'interpréter une recette, mais après, il faut essayer de comprendre un petit peu plus la nature physico-chimique de ces mélanges. Qu'est-ce qui va se passer quand on va cuire notre huile avec de l'oxyde de plomb? J'ai commencé à vous dire, c'est pas trop pâteux, c'est relativement fluide, pas trop liquide. Tout ça, c'est un vocabulaire de description physique des propriétés d'un liquide, donc qui s'étudie par une discipline qu'on appelle la rhéologie. Et donc l'idée de la rhéologie, c'est de faire l'expérience que vous avez fait, j'en suis sûr, de passer un rouleau sur un mur, et donc de regarder finalement la manière dont une peinture va pouvoir s'étaler en devenant plus ou moins liquide, en fonction de la rapidité du geste que l'on peut avoir. Donc vous vous souvenez, si vous avez peint un plafond chez vous, vous avez acheté une peinture pour plafond, si vous avez baissé votre rouleau dans le bac à peinture et vous avez rapidement relevé votre rouleau pour faire un geste rapide pour peindre, vous en avez envoyé plein sur la fenêtre. Si vous avez fait un geste tout doux, à ce moment-là, vous avez réussi à monter votre peinture sur le rouleau et ensuite, en l'étalant, la peinture est devenue plus fluide et a réussi à se déposer sur le mur. Ce sont ces propriétés rhéologiques donc, que l'on peut étudier et qui vont correspondre en fait à des paramètres de viscosité, donc la manière plus ou moins liquide de la peinture, l'apparence plus ou moins visqueuse du mélange de peinture, et le taux de cisaillement, qui est un paramètre qui est lié à la vitesse finalement à laquelle on va passer ce rouleau sur le plafond. Et donc en fonction de la vitesse où on va avoir ce rouleau qui bouge sur le support inerte, on va pouvoir avoir une information intéressante. Donc c'est ce qu'on va pouvoir décrire avec différents types de modèles. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais les taux de cisaillement qu'on va pouvoir utiliser sont sur une grande gamme qui vont correspondre à la fois à la vitesse que l'on va avoir lorsqu'on applique la peinture sur son support, à la vitesse que l'on va pouvoir avoir par la gravité notamment ou juste par la fluidité de la matière, de nivellement, de coulure, donc il y a quelque chose de beaucoup plus lent, qui va se produire beaucoup plus lentement dans les cisaillements, et puis après le repos complet jusqu'au séchage. Donc vous voyez, on a des courbes comme ça qui vont se dessiner, et en lisant ces courbes, on va avoir des informations sur les propriétés de cette matière. Donc il y a des lois qui existent entre cette viscosité et ce taux de cisaillement, enfin une loi qui est très simple, qui est écrite ici, et qui nous permet de mesurer une contrainte qui va être une caractéristique de la peinture. Et donc on va pouvoir regarder des systèmes comme cela. Pour regarder différents types de systèmes, on va regarder la contrainte en fonction du taux de cisaillement. Et puis regardez, par exemple, dans certains cas, on va avoir une droite qui va se dessiner quand on va faire cette mesure contrainte en fonction du taux de cisaillement. C'est ce qu'on va appeler donc, un comportement newtonien. C'est le cas de l'eau, c'est le cas de l'huile. Ce sont des matériaux extrêmement simples à décrire. Et en fait, leur viscosité est indépendante de ce taux de cisaillement, de cette vitesse finalement d'application. Donc les solvants aussi, les vernis en général ont ce type de propriétés dites newtoniennes. Puis vous avez d'autres cas où vous avez cette fois-ci la viscosité qui va diminuer avec le taux de cisaillement. Et donc c'est ce qu'on va appeler les comportements rhéofluidifiants, comme vous avez ici. Donc c'est par exemple les yaourts, les shampoings, etc., qui peuvent avoir ce type de propriété. Et puis après, vous avez d'autres types de matériaux où vous allez devoir déjà appliquer une contrainte avant qu'ils puissent commencer à bouger. Donc là, vous voyez, c'est un matériau ici rhéofluidifiant qui peut bouger dès qu'il est quelque part. Là, vous devez déjà appliquer une contrainte. Donc un très bel exemple, c'est les dentifrices. Vous avez dans votre tube de dentifrice un matériau qui ne va pas s'écouler tout seul, mais dès que vous lui appliquez une force sur le tube, il va devenir liquide. Vous mettez sur la brosse à dents, dès que vous mettez une force sur vos dents, il devient encore plus liquide. Donc on a comme ça des possibilités, on va pouvoir mesurer ici ce qu'on appelle un seuil d'écoulement, qui est un paramètre très important, la taux C, dans ce type d'étude. Et puis enfin, vous avez encore un autre type de comportement pour ces matériaux rhéofluidifiants qu'on va appeler un comportement thixotrope, et où là, on va avoir une loi beaucoup plus compliquée qui peut apparaître, c'est-à-dire qu'ils vont être rhéofluidifiants au début, et puis si vous restez avec un taux de cisaillement constant à un moment donné, leur viscosité, donc ici, va diminuer. Et donc, vous allez avoir un matériau qui va pouvoir changer de comportement au cours du temps et au cours de la gestuelle de l'application par le peintre de la matière picturale. Donc là, vous avez un petit vocabulaire qui nous décrit ça. On a ensuite des appareils qui nous permettent de le faire. Donc là, c'est un dispositif à l'ESPCI, au laboratoire SIM, qui est utilisé pour ce type d'étude avec un système dit de cône plan. Donc l'échantillon est mis entre un cône mobile qui tourne et qui est doté de capteurs pour mesurer la viscosité, pour mesurer les contraintes qui sont appliquées sur la peinture, et donc un plan immobile, donc en dessous, qui sert de support. Et de là, donc on peut arriver à nos huiles et regarder un petit peu les propriétés et les graphes que l'on va pouvoir mesurer de viscosité en fonction du taux de cisaillement pour nos différentes huiles. Et donc regardez d'abord à gauche ici, donc un mélange sans eau, l'oxyde de plomb pendant 2 heures, là, l'huile noire que je vous ai montrée à 150 degrés. Donc si vous prenez l'huile de lin, au début, vous voyez sa viscosité est constante en fonction du taux de cisaillement. Donc ça, c'est une huile qui a un comportement newtonien. Et puis ici, alors c'est encore un graphe différent des précédents, j'ai pas fait attention, vous avez ici un milieu où la viscosité va diminuer en fonction du taux de cisaillement, et donc c'est un système rhéofluidifiant. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire que quand vous allez déposer vite votre peinture, la peinture va devenir plus liquide. Donc ça a un intérêt technique extrêmement évident. Et puis après, dans l'autre variété de recettes, on va rajouter cette fois-ci de l'eau, donc je l'ai montré tout à l'heure, donc à 100 degrés, pendant 2 heures, vous voyez que le système avec de l'eau devient plus visqueux pour une même teneur en oxyde de plomb mis dans la recette, mais a également le même type de comportement rhéofluidifiant. Et donc là, on arrive à expliquer cela. On arrive donc à voir des avantages d'une viscosité plus ou moins importante par rapport à un geste artistique. Maintenant, regardons-le du point de vue de l'artiste. Donc j'ai cherché dans des lettres de Van Gogh différents exemples de commentaires qu'il pouvait faire sur la peinture à l'huile qu'il achetait. Donc il ne l'a pas fabriquée, il l'achetait chez son marchand de couleurs. Et là, vous avez trois lettres, donc de 1888-1889, donc à son frère, et où il va décrire un pigment blanc. Et donc, on va regarder un petit peu ce que cela donne. Donc, ce blanc de zinc que j'emploie maintenant ne sèche point. Si tout était sec, je ferai un envoi immédiatement. Donc là, c'est un commentaire qui est intéressant. Peinture à l'huile, à l'oxyde de zinc, ça sèche mal. En fait, on sait que les peintures à l'oxyde de zinc mettent beaucoup plus de temps à sécher qu'une peinture à base de blanc de plomb, de céruse, qui était l'autre pigment blanc que Van Gogh pouvait utiliser d'ailleurs à ces époques-là. Je voudrais bien doubler la commande pour les blancs de zinc. Ce blanc de zinc est un peu cause, oui, c'est bizarrement écrit, est un peu cause que ça sèche si lentement. Mais il y a d'autres avantages dans les mélanges. Donc là, il nous fait un deuxième commentaire. Il râle toujours sur le fait que ça ne sèche pas, mais ça a d'autres avantages dans les mélanges. On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis, une troisième partie, troisième petit texte. Quelle drôle de chose que la touche, le coup de brosse. Donc là, il nous parle enfin de ce geste, finalement, qu'il va avoir, de sa touche de peinture, qui, chez Van Gogh, est si importante. En plein air, exposé au vent, au soleil, à la curiosité des gens, on travaille comme on peut. On remplit sa toile à la diable. Alors, pourtant, on attrape le vrai et l'essentiel. Le plus difficile, c'est ça. Donc vous avez là des exemples qui nous décrivent donc à la fois des problèmes de séchage et puis des problèmes de gestuelle qui peuvent exister et qu'on va pouvoir continuer à regarder dans d'autres types de cas. Alors par exemple, ici vous avez un détail d'un tableau, donc champ de blé avec cyprès en 1889, donc qui est contemporain du petit fragment de lettre là que je vous mets aussi au-dessus. Deux études de cyprès de cette difficile nuance vert-bouteille. Bon, ce n'est pas toujours rédigé. Hein. J'en ai travaillé les avant-plans par des empattements de blanc de céruse, ce qui donne de la fermeté au terrain. Je crois que très souvent, les Monticelli étaient préparés ainsi. Donc Monticelli, c'est un autre peintre marseillais qui n'a pas du tout eu la renommée de Van Gogh. Et donc, il va nous décrire ici sa touche, et sa touche va viser à faire des empattements de blanc de céruse. Vous voyez, on a tout un vocabulaire ici qu'on peut comprendre en voyant les œuvres. La manière dont la peinture sèche va se craqueler, va créer des empattements, c'est le style du peintre, ça rentre complètement dans son processus de création artistique. Mais on peut aussi essayer de le comprendre par l'étude rhéologique de ces mélanges. Et donc il y a eu un article qui est juste sous presse depuis quelques jours de Johanna Salvan, Laurence de Viguerie et d'autres collègues qui ont cherché à regarder comment Van Gogh a pu travailler pour réussir à formuler, enfin comment Van Gogh a pu travailler à partir des formulations de peinture qui lui étaient offertes par ses marchands de couleurs. Et donc l'expérience a consisté à regarder quand est-ce qu'on pouvait fabriquer une peinture en mélangeant un pigment avec l'huile et avec différentes proportions d'huile. Donc là, vous avez la quantité de pigment en volume. Donc vous voyez, le zinc, par exemple, va accepter entre 20 et 45% de volume de pigment par rapport au volume d'huile. Le blanc de plomb va correspondre un petit peu différemment. Et ensuite, le seuil d'écoulement, donc ce seuil d'écoulement qui est la force minimale, la pression minimale à appliquer pour que la peinture devienne fluide, s'étale, va être mesuré. Et vous voyez qu'on a des courbes ici qui démontrent que le seuil d'écoulement pour l'huile contenant du blanc de zinc est beaucoup plus haut que pour l'huile contenant du blanc de plomb. Donc ça, ce sont des informations. En fait, il y a un facteur de l'ordre de 30 entre les deux. Ce n'est absolument pas négligeable. Et ça peut être complètement interprété en termes de propriétés physico-chimiques. Donc, de propriétés physico-chimiques d'abord des grains de pigment, parce qu'une peinture à l'huile, c'est un mélange extrêmement compliqué, où les grains peuvent être tous plus ou moins jointifs avec juste un petit peu d'huile à l'intérieur, parfois peuvent s'agglomérer en amas. Donc la forme des grains de pigment, donc par exemple la forme du blanc de plomb, comme vous l'avez ici, sous forme généralement de petites plaquettes, ou la forme du blanc de zinc, qui généralement est sous forme de tout petits grains très ovoïdes, va avoir un rôle. Il n'y a pas que l'huile qui va jouer un rôle dans ces propriétés particulières du mélange huile plus pigment, mais on voit des très grandes différences entre les deux. Et donc le fait que ce seuil d'écoulement soit si important pour le blanc de zinc va faire finalement que l'artiste va se retrouver avec la possibilité, s'il n'applique pas une force très grande, d'avoir une peinture très pâteuse. S'il applique beaucoup plus de force, avoir une peinture plus liquide. Et donc ça va lui donner la possibilité de réussir à avoir des effets de traces de pinceau qui sont si visibles dans les peintures de Van Gogh. Donc ça, c'est des choses qu'on peut continuer à regarder. Donc toujours dans le même article, les mêmes auteurs ont essayé de comprendre donc, ces touches vigoureuses du point de vue physico-chimique. Hein. Donc, c'est une technique qu'on appelle l'impasto pour Van Gogh et qui sont visibles. Alors par exemple, sur ce tableau, donc, le viaduc à Arles, 1888, vous voyez le viaduc derrière, on appelle ça aussi le train bleu, ce tableau, il a deux noms. Et ils ont regardé la manière dont la surface de la peinture était irrégulière et pouvait être modélisée finalement comme un dépôt irrégulier portant les traces du pinceau, les traces du geste de l'artiste à la surface. Donc, vous voyez là un détail du ciel ici et vous ici sur une autre œuvre. Et en fait, on peut utiliser différents types de modèles. Alors, il y a un modèle qui a été proposé par un dénommé Orchard, et qui permet de mesurer le seuil d'écoulement en fonction des différents paramètres que l'on peut observer à l'intérieur de cette peinture, donc des irrégularités à la fois de hauteur qui existent, de distance entre les irrégularités et la manière dont on arrive finalement à calculer ce seuil d'écoulement par l'observation de ce qu'a fait le peintre. Et finalement, en observant ce qu'a fait le peintre, on sait la pression qu'il a pu exercer de façon à étaler sa peinture et de façon à avoir ses irrégularités. Et c'est ça qui est très, très intéressant dans ce cas-là. Et donc, ça se mesure. Donc là, par exemple, vous voyez, hein, on a des graphiques avec une échelle qui est le pascal ici. Et en fait, il a été mesuré, là, sur le cas du ciel, qu'on avait une pression, un seuil d'écoulement qui était à 120, donc dans ces conditions ici, à 120 pascal qui avait été appliqué, enfin, qui devait être appliqué pour rendre plus fluide la peinture comme il fallait pour le peintre. Donc ça, c'est toute une série d'éléments qui sont très, très importants, parce que si on va peindre avec de l'oxyde de zinc, on va avoir ces traces de pinceau. Si on va peindre avec du blanc de céruse, le seuil d'écoulement est beaucoup plus bas, donc ça sera beaucoup plus difficile d'avoir ces traces de pinceau. Et de là, on voit, en fait, on a une autre compréhension du travail des peintres qui vont volontairement faire certaines parties de leur peinture avec du blanc de plomb, qui a aussi un meilleur pouvoir couvrant, mais aussi pour avoir une peinture plus lisse, ou bien avec du blanc de zinc, de façon à avoir ces irrégularités, sculpter la matière, laisser les traces du pinceau, laisser les traces de leurs gestes, et de là, induire, exprimer des sensations, des mouvements, ou bien montrer même des volumes par ce type de gestuelle, comme on peut le voir sur les œuvres de Van Gogh. Donc ça, c'est un système relativement simple de peinture à l'huile simple, mais en fait, même pour Van Gogh, les peintures n'étaient pas si simples, et les artistes ont pris l'habitude, sans doute dès le XVe siècle, mais on n'a pas toujours autant d'informations, de rajouter un autre ingrédient, donc ce qu'on appelle un médium, et qui est une matière qui était rajoutée parfois directement sur la palette à la peinture à l'huile pour lui modifier encore plus ses propriétés physiques. Et donc je n'ai pas le temps de regarder plus que ça, mais juste regarder un exemple qui est apparu en 1787 sous le nom de Megilp et qui est extrêmement intéressant puisque ça va être un produit qui va être formulé pour être ajouté à cette peinture à l'huile dans le but de réellement modifier la matière picturale. Et donc, quelle est la recette? Ça va être celle de mélanger un vernis au mastic avec une huile cicatrice cuite avec de l'acétate de plomb dans des proportions qui sont variables. Donc, on va avoir une variété en fait, de recettes potentielles en fonction des auteurs, des marchands de couleurs qui peuvent apparaître. Mais l'idée est toujours la même, ça va être d'avoir ce mélange qui donne un gel, une matière gélifiée, et qui va être mélangé à la peinture à l'huile pour lui conférer les propriétés thixotropes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc d'évolution finalement de la rhéologie, de la fluidité de la matière picturale au cours du temps, ce qui n'est pas possible avec les matériaux rhéofluidifiants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un taux de cisaillement constant, la viscosité va diminuer. Vous faites un geste long, au début la matière est visqueuse, et à la fin elle devient plus fluide. Et puis après vous relâchez votre geste, et la matière va redevenir très vite visqueuse, avant même qu'elle ne sèche. Donc vous avez ici une possibilité extrêmement intéressante, et donc on peut regarder par exemple ici, où on va faire couler un mélange de peinture à l'huile, ou bien un mélange de peinture à l'huile avec un médium type Megilp, enfin là c'est même du Megilp, vous voyez ce gel là qui est présent au bout par rapport à cette peinture à l'huile, donc il va s'écouler avec sa viscosité. Et en fait les peintres, à partir du début du 19e siècle, vont utiliser énormément cette technique, alors qu'il y aura toute une série d'autres noms de variantes en fonction de la nature des recettes employées, tout aussi bien dans le but de réaliser des glacis, qui sont des matières très lisses déposées à la surface des œuvres, que pour sculpter davantage la matière dans une technique d'impasto comme chez Van Gogh. Et donc ce qui est important grâce à l'ajout de ce Megilp, c'est que la peinture va durcir grâce à ses propriétés thixotropes avant même de sécher. Et donc le peintre va pouvoir superposer aisément les couleurs avant même d'attendre le séchage parce que la peinture sera dure. Mais en même temps, il pourra aussi travailler sa peinture en appliquant plus de pression. Vous avez des peintres impressionnistes, notamment Renoir le commentait beaucoup en disant qu'il aimait mélanger les couleurs sur sa toile. Donc quand vous avez des matériaux de ce type-là, avec un geste doux, vous allez pouvoir déposer une couleur sur une autre. Avec un geste plus fort, vous allez pouvoir mélanger votre pigment avec la couleur sous-jacente, puisqu'avec un geste plus fort, votre peinture sous-jacente va se reliquifier, se refluidifier plutôt, de façon à pouvoir faire ce type de mélange. Donc ça, c'est étudié dans différents cas. Donc par exemple, sur ce tableau de Turner, qui est présent à Belfast, il y a eu toute une étude qui a permis de caractériser et d'étudier en détail la présence de ce médium Megilp qui avait été utilisé par Turner, par beaucoup d'autres peintres anglais et également par les peintres pré-raphaélites. Ce n'était quand même pas une technique absolument parfaite, hein, puisqu'il a été observé qu'il y avait beaucoup de problèmes de séchage et de conservation qui pouvaient apparaître avec parfois de mauvais usages de cette pratique, et puis aussi que parfois la peinture pouvait jaunir devenir cassante et se craqueler. Donc là aussi, il fallait savoir doser la quantité d'ajout du médium. Et certains marchands de couleurs ont vendu des peintures avec ce médium ajouté directement au peintre, ou certains peintres ont voulu eux-mêmes faire leur propre mélange. Donc voilà un petit peu des exemples. Alors c'est vrai que je vous ai parlé que de très rares cas pour essayer de vous montrer un peu la démarche, la philosophie que l'on pouvait avoir ici. Donc en fait, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a une influence complexe de chaque composé entrant dans la formulation d'une matière picturale. Donc je vous ai parlé des propriétés rhéologiques et optiques de la peinture. Avoir une texture à la surface de la peinture, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour certains peintres, qui est prohibé pour d'autres. On parlera de Léonard de Vinci la fois prochaine, sa peinture est totalement lisse. Et puis également après, ça a une influence très forte sur la rapidité de réalisation d'une œuvre finale. La fresque contraint terriblement le travail de réalisation, sinon le support devient dur comme de la pierre, devient de la pierre. D'autres techniques, et notamment les peintures à l'huile, l'ajout de médium, vont permettre une rapidité d'exécution, parfois une facilité d'emploi, une facilité de travail sur des temps relativement longs sur l'œuvre elle-même, parce que les mélanges complexes vont plus ou moins sécher rapidement ou non. Et donc enfin, une transparence parfois de la couche de peinture, et ça on le rabordera dans une autre technique picturale dont je n'ai pas voulu parler aujourd'hui parce qu'elle sera le cœur de la semaine prochaine, qui est la technique des glacis. Voilà donc un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces aspects concernant cette histoire des techniques. Quelques-uns des aspects, mais je crois vraiment que ces modélisations physico-chimiques et cette façon de réussir à concevoir à la fois des reconstitutions de recettes, des analyses chimiques et des études de procédés physiques modèles est une clé aujourd'hui pour bien mieux comprendre la manière qu'avaient les artistes de travailler. Donc comme d'habitude, on va faire une petite pause de 3-4 minutes, mais je vais d'abord, le temps de changer d'ordinateur, vous présenter donc l'invité du séminaire qui va suivre ce cours, donc très, très vite, donc qui m'a fait le plaisir de venir aujourd'hui depuis Chicago pour cette occasion. Donc il dirige le laboratoire de recherche et de conservation de l'Art Institute de Chicago, donc il s'agit de Francesca Casadio, qui est une grande spécialiste des techniques de la peinture, du 19e siècle, du 20e siècle. Elle a fait des travaux tout récemment que vous pouvez regarder sur Internet, notamment sur la décoloration de tableaux de Renoir. Ça, c'était le mois dernier. Aujourd'hui, elle va venir nous parler de Picasso et de son usage de certains types de pigments. Donc, je voudrais la remercier de venir et de nous montrer un petit peu tous les travaux de physico-chimie qu'elle peut entreprendre, à la fois avec des outils de laboratoire, à la fois avec des outils mobiles. Les deux sont utilisés, ça sera aussi l'objet de cours dans l'avenir. Et elle est également maintenant responsable, elle à la tête, d'un très important projet de recherche sur la connaissance et la conservation du patrimoine qui associe l'Art Institute de Chicago et la Northwestern University, qui est à Chicago également, et de façon à créer vraiment une recherche interdisciplinaire entre des chimistes universitaires durs, spécialistes de méthodes en particulier très précises d'analyse, et puis les laboratoires de musées. Donc voilà, je vous laisse 2-3 minutes de pause et puis on va reprendre. Merci.